Je vous avais promis de parler du Saint-Esprit, et je reviendrai peut-être la prochaine fois si j'ai pas le temps, sur l'analogie entre la communauté que représente l'être divin Yahvé, Père, Fils, Saint-Esprit, et ce que ça renvoie comme communauté de l'être vivant humain que nous sommes en tant que communauté, en tant qu'Église. Alors, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit du Seigneur, se présente plutôt comme une manifestation de la puissance de création de Dieu. Ça s'appelle le Ruah en hébreu. Le Ruah, c'est le souffle de Dieu, le souffle de Yahvé. Ce souffle, quand on lit l'Ancien Testament, donc je vais bien séparer l'Ancien et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, donc dans Genèse, on voit que cet Esprit de Dieu façonne le monde comme un lieu qui est ordonné et habitable pour son peuple et qui suscite des individus pour conduire son peuple sur le chemin de la sainteté, de la sanctification. Donc, d'un côté, il établit un lieu ordonné, habitable, sinon on ne peut pas vivre dans le chaos. Et puis, il suscite des hommes et des femmes, surtout des dirigeants, pour diriger le peuple, ce qui a été tout au long de l'Ancien Testament, par les prophètes, les rois, etc. Dans les premiers versets de la Genèse, donc Genèse 1, verset 2, donc le deuxième verset de la Bible, il est dit que l'Esprit de Dieu plane à la surface des eaux pour ordonner le chaos qui existait. Au départ, c'était le chaos et Dieu a ordonné le chaos par l'Esprit de Dieu pour en faire un monde habitable. Dans les récits historiques d'Israël, donc le peuple de Dieu, le même Esprit, l'Esprit de Dieu, s'agite dans les chefs du peuple. Donc vous avez ça dans Juges 13, 25, en particulier Samson, mais tous les autres aussi. C'est aussi cet esprit, l'Esprit de Dieu, qui fait des prophètes, des rois, des chefs militaires. Donc c'est dans Samuel, Saül et David. Vous connaissez bien maintenant après les interventions de Michel. Cet esprit de Dieu, aussi le roi, c'est lui qui permet aux prophètes de porter la bonne nouvelle aux affligés. C'est dans Ésaïe 61, verset 1 et 2 Rois 2, 9. Le Seigneur dit à Moïse qu'il a rempli Bezalel, l'artisan de l'Esprit de Dieu, pour lui permettre de façonner tout le mobilier du tabernacle en accord avec le projet de Dieu. C'est dans Psaume 143, verset 10. Et le Seigneur semble manifester sa conduite dans les personnes et dans la nation tout entière, en purifiant leur esprit, purifiant leur façon d'être, dans Psaume 51, versets 12 et 14, en les aidant à garder ses commandements, mais en étant attristés par le péché. Et vous voyez là, ça renvoie déjà à l'enseignement du Nouveau Testament, où on peut attrister le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. La vision, la puissante vision de la restauration d'Israël, vous connaissez bien ce passage d'Ézéchiel 37. Cette restauration d'Israël qui est décrite par le prophète Ézéchiel, c'est la victoire sur la défaite de la mort et de l'exil, puisqu'ils étaient en Babylone. Le souffle qui retourne au cadavre desséché du peuple devient une image du souffle même de Dieu qui recrée le peuple. Il est dit dans Ézéchiel 37, verset 14, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » Vous voyez, quand ce souffle souffle sur les eaux desséchées, donc dans la vallée d'Ézéchiel, eh bien ces eaux revivent et petit à petit il y a la chair qui se met dessus. Ça, c'est l'action de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, Donc je passe de l'Ancien au Nouveau Testament. Les écrits parlent habituellement de l'Esprit de Dieu, et là c'est le grec qui est utilisé comme langue du Nouveau Testament, et là c'est le pneuma. Le pneuma, c'est esprit en grec. Vous voyez, donc là, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, les apôtres, eh bien, ils empruntent la langue grecque pour expliquer des choses spirituelles. C'est pour ça, parfois, on a des confusions entre la culture grecque, et c'est pour ça qu'il faut faire de la théologie, parce que sinon, on mélange un petit peu les deux, et c'est un peu ce qu'on fera à la rentrée. Avec la théologie du Nouveau Testament, on va essayer de bien fonder cela dans ceux qui veulent bien suivre ces enseignements. Donc dans le Nouveau Testament, on parle de l'Esprit de Dieu en tant que pneumatéou, l'Esprit de Dieu. Théo, c'est Dieu, hein. Pneumatéou. Mais de manière plus personnelle. Et vous, là, la différence entre le roi et le pneuma, c'est que le roi, c'est plutôt l'Esprit de Dieu qui ordonne les choses dans les lieux et dans les personnes, les positions, dans les offices. Et là, le pneuma est utilisé dans l'esprit de manière plus personnelle. Et le Nouveau Testament associe donc l'esprit intimement à la personne et à la mission de Jésus. Donc il y a Jésus qui apparaît dans le Nouveau Testament. Donc le Messie annoncé, lui aussi était annoncé, Jésus. L'esprit qui existait sous la forme de roi, le souffle de Dieu. Et vous savez qu'on a tous reçu le souffle de Dieu pour vivre, sinon on ne vivrait pas. C'est la création de l'homme et de la femme dans la Genèse. Et là, l'esprit de Dieu qui est plus personnel, il est associé à la mission et à l'œuvre de Jésus. Et à sa personne. Dans Matthieu et dans Luc, on indique clairement que Marie conçoit Jésus en son sein par la puissance du Saint-Esprit et qui la couvre de son ombre. C'est dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Les quatre évangiles, ou les quatre évangélistes, ils attestent que Jean le Baptiste, donc Jean qui est venu pour baptiser dans la repentance les Juifs, pour les préparer à recevoir le royaume de Dieu. Donc que Jean-Baptiste lui-même était rempli de l'Esprit Saint, depuis le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. C'est marqué dans Luc 1, verset 15. Les quatre évangiles aussi témoignent de la descente, alors ils parlent de la descente du même esprit sur Jésus. C'est-à-dire que Jésus reçoit par une descente de l'esprit, alors bon, ça renvoie à des termes très importants, c'est pour ne pas mélanger le divin et l'humain. Voilà. Parce que vous pouvez descendre, mais l'esprit qui descend sur Jésus, c'est quelque chose de particulier au niveau théologique. Parce que les personnes restent différentes entre l'Esprit et Jésus. La descente du même Esprit sur Jésus, dans une manifestation visible de la puissance et de l'élection de Dieu. Celui-ci est mon Fils, il est élu. Voyez-vous ? Donc le Père, en même temps que l'Esprit vient, il désigne la personne du Fils de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Donc une manifestation puissante, visible de la puissance et de l'élection de Dieu, au moment où Jésus reçoit le baptême, où il rentre dans les eaux du baptême. Pourquoi Jésus prend le baptême? Il n'a pas péché. Mais, vous voyez, il y a un geste là, on ne va pas rentrer dans la signification de ce baptême, mais à ce moment-là, il y a la puissance de l'Esprit qui vient sur lui, et il est désigné comme étant l'élu de Dieu. Le Saint-Esprit aussi conduit Jésus au désert, pour lutter contre le diable. C'est d'ailleurs sa mission principale, c'est de détruire les œuvres du diable. Donc, qu'il le rencontre tout de suite après cette manifestation de la puissance sur lui et l'envoie dans le désert, c'est tout à fait logique que c'est sa première mission et c'est celle qui va gagner, remporter la victoire, c'est Évangélion, nous avons gagné au moment de la résurrection, qui est l'aboutissement de toute sa mission, quand il est monté au ciel à l'ascension après sa résurrection. Donc le Saint-Esprit conduit Jésus au désert pour lutter contre le diable, dans Matthieu 4, Luc 4, et le remplit de la force prophétique au début de sa mission, lorsqu'il annonce le royaume. Et le remplit de et se manifeste, ça se manifeste dans les exorcismes. J'ai l'habitude de dire que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne voyez pas beaucoup les démons. Il est question de démons, en particulier dans les livres apocryphes. C'est comme ça que la Kabbale juive, les Juifs s'appuient là-dessus pour construire la Kabbale sur des textes qui sont apocryphes, qui ne sont pas reconnus comme étant la Bible, mais qui sont très très nombreux. Et en particulier, l'Église catholique en a gardé certains. Voilà, je crois 7 ou 8 écrits. Et là, il donne des précisions démoniaques. Mais nous, dans notre Bible que nous avons, nous croyons étant inspirés, eh bien, il n'y a pas beaucoup de références à des démons. Par contre, dans le Nouveau Testament, dès que Jésus commence sa mission, on a l'impression que tous les démons se manifestent. À chaque fois qu'ils passent, il y a des démons qui se manifestent, etc. Voyez-vous, donc ça veut dire qu'il gêne, ça veut dire qu'il a une mission particulière, ça veut dire qu'il est appelé à amener la lumière, et que justement la manifestation démoniaque est une manifestation de ce que l'ennemi se sent en danger, que le diable, qui n'a pas réussi à le tenter dans ses 3 tentations, eh bien tous ceux qui sont ses acolytes, eh bien ils savent qu'ils ne peuvent rien contre Jésus. C'est déjà une manifestation de sa victoire qui va aboutir à la croix. Donc se manifeste dans les exorcismes, et Jean le Baptiste a caractérisé la mission de Jésus comme un baptême de feu. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui qui va venir, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Voyez-vous, donc la caractérisation du feu, hein, vous savez bien, c'est cette puissance, qui cette chaleur, etc. Et très souvent, c'est ce que vous remarquez quand vous vous convertissez. Il y en a qui, quand ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, ont ressenti du feu. Levez la main, que je vous vois. Voilà. En tout cas, moi, c'était mon cas. Le feu et la présence, enfin, vous voyez, c'est très peu partagé, on est 3-4, hein, donc c'est pas général, mais c'est Jean le Baptiste qui dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est dans Matthieu 3, Luc 3, Jean 1, 33, etc. Et c'est une prophétie qui est accomplie dans les merveilles de la Pentecôte, puisque la Pentecôte, donc le 50e jour après la Pâque, c'est la création de l'Église. C'est la constitution de l'Église qui, elle, prend naissance sur la base d'une expérience personnelle. Jésus a établi l'Église dans Matthieu 16, quand il était à Césarée de Philippe. Mais c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit, donc la troisième personne de la divinité, a créé l'Église avec les disciples qui sont associés au Saint-Esprit pour être sans Jésus sur la terre, mais être la présence du royaume de Dieu sur la terre. Donc c'est une prophétie qui est accomplie dans la Pentecôte, lorsque les disciples furent revêtus de la force d'en haut. Voyez-vous, on revient toujours à la force, à la puissance. C'est dans Luc 24, 49 et Actes 1, 8. Le récit des Actes des apôtres, qu'on appelle parfois le cinquième évangile, avant les épîtres, hein, puisque les Actes des apôtres, c'est un peu entre l'évangile et les épîtres. C'est le témoignage de vie qui est rendu par la première communauté et qui rend Étienne capable de témoigner de Jésus par sa vie. Vous savez qu'Étienne a été lapidé et que Paul était là. Il a vu cette lapidation. La présence charismatique. Alors, charismatique, charisme veut dire les dons. Hein. Donc, la présence charismatique chez les païens croyants, déjà dans Actes 10, 47, rend évident qu'eux aussi sont appelés à être baptisés en Christ. Donc ça, c'est l'ouverture vers les païens. Ce n'est plus que Israël qui est concerné, comme dans l'Ancien Testament, avec la venue du Saint-Esprit dans les personnes, directement, tous ceux qui acceptent Jésus. Eh bien, c'est la communauté qui s'ouvre, juifs ou non-juifs, hommes ou femmes, etc., esclaves ou libres. Lors de son discours d'adieu dans l'évangile de Jean, Jésus parle du Saint-Esprit comme celui qui va continuer son œuvre dans le monde, après son retour au Père. Il est l'Esprit de vérité, l'Esprit de la vérité. Comme Pilate disait, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui agit dans le monde et qui agit comme un avocat. Un avocat, le paraclétos en grec, hein, voilà, c'est l'avocat au sens où il parle à votre place devant le juge. Et le Saint-Esprit, quand on sera devant le juge et quand on est devant le juge qui est Dieu, hein, parce qu'il a ses normes, ses canons, il a sa parole, etc., nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ce juge parce que le Saint-Esprit est là pour nous assister dans cette tâche et pour enseigner et guider ses disciples. Mais il veut une tâche préventive. Il ne veut pas qu'il soit obligé de nous défendre pour ce qu'on a mal fait, mais il veut nous aider à bien faire. Donc il est là pour nous aider à bien faire. Et il rappelle, le Saint-Esprit rappelle, ce que Jésus a enseigné quand il était sur la terre avec ses disciples, et qui nous sont rapportés, mais pas tout, hein, puisqu'il faudrait le monde entier pour rapporter tout ce que Jésus a fait, dira l'apôtre Jean. Mais en partie, il nous a rappelé l'enseignement de Jésus. Et dans cette section de l'Évangile, Jésus nous donne de mieux concevoir ou percevoir la relation entre cet avocat, entre Jésus et son Père. C'est un passage qui se trouve dans Jean 15, 26. Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit d'auprès du Père. Donc le Saint-Esprit est auprès du Père, il l'envoie vers nous comme l'Esprit de vérité qui procède du Père. Alors là, on renvoie aux trois siècles de discussion des premiers chrétiens pour établir la Trinité. Il procède du Père et du Fils. La vérité qu'il enseigne sera révélée dans la personne de Jésus. Jésus, c'est, je dirais, la quintessence, le condensé de l'enseignement sur le royaume de Dieu. Il est dit dans Jean 16, « Il me glorifiera, donc le Saint-Esprit, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voyez-vous, là, on ressent très fortement la communauté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas des personnes séparées, elles sont reliées les unes aux autres. Alors, je termine dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux présente l'Esprit comme celui qui parle dans les Écritures de sa propre voix. Parfois, on le voit relié à Jésus, relié au Père, et là, on le voit comme étant autonome. C'est pour ça qu'on parle de personnes distinctes, mais tout en étant reliées. C'est dans Hébreux 3, 7 et 9 à 8. Dans les lettres de Paul, le Saint-Esprit de Dieu est aussi celui qui a définitivement établi Jésus comme Fils de Dieu en puissance, en devenant l'agent de la résurrection, comme le dira Paul aux Romains, chapitre 1, verset 4. Le même esprit qui maintenant nous a été communiqué nous rend conformes au Seigneur ressuscité en nous donnant l'espérance de la résurrection de la vie. Alors ça, c'est Romains 8, 11, c'est très important pour notre foi. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous désespérer de notre faillibilité, de notre impuissance, de nos défauts qui sont justes, qui sont vrais. Hein. On n'est pas parfait. Mais en même temps, nous pouvons nous réjouir en espérance, parce que un jour viendra, où nous serons parfaitement, parfaitement de la même nature que Jésus, ressuscité. Jésus ressuscité, c'est un homme nouveau qui nous précède, qui est les prémices, ça veut dire le premier, hein, d'entre la nouvelle race d'hommes et de femmes que nous sommes en espérance, parce que aujourd'hui c'est par la foi. Mais un jour, donc c'est quelque chose qui nous donne la joie, qui nous donne la vie, qui nous donne cette espérance que personne ne peut nous ôter, parce qu'elle viendra réalité. Donc c'est le Saint-Esprit qui met ça en nous. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, parce que sinon on ne peut pas vivre notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous donne dans les épreuves, dans les difficultés, et vous voyez que plus les épreuves grandissent, l'impression que plus le Saint-Esprit grandit chez les gens, ceux qui sont persécutés, et qui ont cette foi. Hein. L'apôtre Pierre même, d'ailleurs, quand il a été persécuté, mis à mort, il a dit « Je ne veux pas être crucifié comme Jésus, je veux être crucifié à l'envers. » Et il a accepté d'avoir la tête en bas et les pieds en l'air sur une croix, comme Jésus. Et ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut faire des choses comme ça. Et, pas du tout de manière naturelle. Le Saint-Esprit fait de nous des enfants héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers par la puissance du Saint-Esprit. Et il transforme tout ce que nous trouvons difficile à supporter. Il le transforme, et même notre gémissement dans une prière d'espérance. Voyez-vous, l'espérance fait partie de la vie chrétienne, parce qu'elle est indéfectible du Saint-Esprit qui est en nous et qui va nous faire vivre la résurrection comme il a fait vivre à Jésus. C'est Romains chapitre 8, versets 23 à 27. Et l'espérance, le dira l'apôtre Paul dans Romains 5, 5, l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen. Seigneur, merci pour ton esprit. Seigneur, c'est un mystère, comme le dit la parole de Dieu, que nous ne pouvons pas sonder, mais que nous pouvons réaliser par la foi que ton esprit, Seigneur, est une personne vivante que non seulement nous voulons, Seigneur, respecter, mais qui est absolument capitale pour notre vie chrétienne, de manière à ce que nous puissions avoir l'actualisation de ce que toi, Jésus, a vécu sur la terre pendant 3 ans. Et il nous rappelle ses enseignements, il les met dans nos cœurs, il les applique à nos cœurs, il nous aide à les vivre. Il nous aide à vivre dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Merci, Père, de nous avoir donné cet esprit à la Pentecôte. Et de ce qu'il conduit l'Église, malgré, Seigneur, ses soubresauts, malgré les difficultés et les choses qui peuvent être, Seigneur, difficiles à accepter. Mais Seigneur, c'est une réalité que ton esprit est venu en nous lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Et maintenant, il nous accompagne. Il est l'avocat auprès du Père. Il est celui qui nous enseigne, qui nous défend, qui nous corrige, qui nous conduit. Seigneur, merci de ce que tu as fait un don si merveilleux, de ce que nous pouvons vivre ces charismes, Seigneur, ces dons que tu donnes, Seigneur, qui sont nombreux, variés et à l'infini, Seigneur, pour que cette communauté que nous formons, nous puissions la vivre telle que tu le veux et que nous soyons des témoins dans le monde de cette communauté, Seigneur, qui est inspirée de toi, qui est, Seigneur, vécu de l'intérieur par toi. Seigneur, merci pour cette réalité. Nous t'en remercions et merci de ce que cette réalité est ici et maintenant à Aubergenville-Elisabethville. Seigneur, nous pouvons la vivre et nous t'en remercions. Merci, Seigneur, parce que cet esprit est un esprit d'unification. Il unifie, et Seigneur, tu le fais. Depuis 1998, nous avons vécu des choses, Seigneur, qui ne peuvent plus être ébranlées lorsque nous restons en toi et dans ton esprit. Alors Seigneur, nous te remercions pour cela et pour l'avenir que tu nous réserves. À toi toute la gloire, au nom de Jésus.